Donc la prédication, elle s'inscrit dans cette journée particulière. Alors c'est une journée de rentrée, donc c'est toujours à la fois un moment où on revisite un peu le passé et puis on essaye de se projeter. Et puis chaque époque a ses interrogations particulières. Alors c'est vrai qu'en ce moment, on peut s'apesantir sur ce qui est encore devant nous avec crainte. Heureusement, les frères et sœurs ont dit que pendant le confinement, il y a des lumières qui leur sont apparues, il y a des choses qui leur ont été dites. Hein. On n'est pas seulement à dire que c'était une période difficile et que ça, du coup, ça nous bloque, ça nous inquiète. Et je crois qu'il faut effectivement regarder l'avenir avec optimisme. Nous ne sommes pas seuls. Nous vivons dans la foi au Seigneur, nous vivons dans l'espérance. Et avant de prendre le texte principal de ce matin, je lis avec vous dans l'épître que Paul écrit aux Romains, et il prend référence à un de ces personnages dont on a parlé tout à l'heure, on a parlé de l'alliance abrahamique, hein, et il parle d'Abraham, Romains 4, verset 18, « Espérant contre toute espérance, il crut, et il devint ainsi père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit. Sans faiblir dans la foi, il ne douta pas par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Et c'est pour cela que cela lui fut compté comme justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit « cela lui fut compté comme justice », c'est aussi à cause de nous, à qui cela sera compté, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur, livré pour nos offenses, ressuscité pour notre justification. » Alors oui, je crois qu'on peut regarder l'avenir avec optimisme, même s'il y a encore le Covid, même si vous avez tous encore un masque, même si il y a des bruits de guerre un peu partout dans le monde, même si, enfin voilà, je vous dis, on pourrait, hein, et puis comme on est dans une société de la méga-information, de l'hyper-information permanente, on peut aligner tous les jours les raisons d'avoir peur ou d'être inquiet ou de se poser des questions auxquelles, de toute façon, nous n'avons pas les réponses, parce que dans notre vie quotidienne, nous n'avons qu'un périmètre d'action qui est assez limité quand même par rapport au fait que les États-Unis n'achètent pas les sous-marins nucléaires, les sous-marins, machin, et que, ainsi que les États-Unis les vendent aux Australiens, voilà. Des choses comme ça nous terrifie, mais enfin, qu'est-ce qu'on y peut, voilà. Donc, je veux dire, il y a plein de choses sur lesquelles notre société nous amène, nous abreuve d'informations qui nous servent à rien finalement, et qui quelque part peuvent nous détourner de la seule vraie information, qui est que nous avons une espérance. Cette espérance, elle a été marquée par l'alliance que Dieu a fait avec nous par Jésus-Christ et qui nous fait marcher. Alors on va prendre dans le livre des Juges l'histoire de Gédéon. Tout le monde connaît l'histoire de Gédéon, je suppose, mais tout le monde connaît toutes les histoires de la Bible ici, donc dire à quoi ça sert de parler alors finalement. Hein, bon. On va le lire quand même. Juges au chapitre 6. Je commence au verset 12. « L'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Ça commence mal. Le Seigneur vous parle des fois comme ça. « Tiens, tiens, toi, je t'ai choisi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous arrive-t-il ? Où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? » Mais maintenant, l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? » Il lui répondit, « Ah, mon Seigneur, mais avec quoi sauverai-je Israël ? Ma parenté est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon, il se pose des questions. Il y a plein de questions qui peuvent résonner avec ce que nous vivons tous les jours. D'abord, la période d'incertitude, la période de crise, des difficultés, le fait qu'il se sent tout petit, le fait qu'il a l'impression quelque part que Dieu nous a abandonnés, ou qu'il n'est pas suffisamment présent comme j'aimerais qu'il le soit à l'instant où je voudrais qu'il soit à mes côtés, etc., etc. Gédéon a tout cela, et on peut transposer ses craintes, légitimes en fait, d'une certaine manière, et du coup être comme Gédéon et rester derrière son pressoir en train de, en catimini, faire son travail. Et le Seigneur nous appelle, il nous appelle chacun, je pense. Voilà, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, voilà ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Et il nous invite, d'abord, je pense, à nous mettre debout et être présent au monde. J'ai bien aimé, comme Christine disait, que finalement, c'était bien de prendre conscience du fait que nous sommes dans un monde et nous avons des relations avec tout un tas de gens et que c'est dans la solidarité les uns avec les autres. Et avant tout, celle-là, avant de se dire celui-là, il est chrétien, je peux parler avec lui, ou au contraire, il n'est pas chrétien, donc je vais lui envoyer un témoignage, etc. Voilà, on est simplement invité à nous mettre debout, pour nous associer à la peine des gens qui souffrent, bien sûr, quand il y a des difficultés, pour montrer la solidarité avec les gens qui ont besoin, pour peut-être pour certains d'entre nous mener une réflexion plus politique, agir dans la société, s'engager, chercher des terrains de dialogue, etc. Et puis, il y a aussi le danger, l'autre risque, on va dire, ou l'autre tendance que certains peuvent avoir peut-être, c'est de se replier sur soi, s'enfermer. Et le confinement, effectivement, hein, a obligé à se poser des questions. Est-ce que finalement je préfère rester comme ça tout seul chez moi, ou est-ce qu'il faut que j'en sorte d'une manière ou d'une autre? Et même si je suis, comme cher souhaité Sophie, elle est là-bas, même si on est physiquement enfermé, intérieurement, on peut continuer à agir, enfin, à faire marcher notre foi, notre tête, notre prière pour sortir de cela. Le danger, c'est donc de se replier sur soi, éventuellement de pointer des coupables, hein, de trouver toujours des responsables. Est-ce que c'est la pandémie, c'est Élisée qui disait, il y a eu certains débats où c'est la punition de Dieu sur, et alors là, chacun a sa liste de fautes graves sur lesquelles, voilà, nous sommes perturbés par le monde qui est autour de nous. Alors c'est sûr que Gédéon, lui, vivait une petite époque tranquille, hein, j'ai bien compris. Ben, en fait, c'était une époque où, alors, tiens, Élisée a parlé du Seigneur des Anneaux, moi je vais vous parler d'un autre film, qui connaît le film Les Sept Mercenaires? Bon, c'est un peu moins culturel, hein, je reconnais. On est plus dans le style western, mais enfin bon, hein, chacun ses références, qu'est-ce que vous voulez. Et ben, c'est un petit peu la situation que vivait Gédéon. Les Sept Mercenaires, c'est un petit village, alors je sais pas, mettons que c'est dans le Nouveau-Mexique ou un truc comme ça. Il y a des bandes de bandidos, là, avec, comment il s'appelle, Calvera, et ses 40 bandits qui attendent juste que les gens aient fait la moisson tranquillement, et hop, ils viennent, ils font la razzia, et ils pillent tout, ils s'en vont, et ils repartent dans la montagne. Et c'est les pauvres paysans, là, ils savent pas faire la guerre, ils savent faire leur métier, quoi. Et donc, ils se cherchent une solution parce qu'ils sont comme était Gédéon, là, hein. Qui battait son blé dans son air discrètement en disant « J'espère qu'ils ne vont pas le voir parce que sinon, Madian va venir encore me rafler ma récolte. » Alors la différence, c'est que dans ce film, ce que font les paysans de ce village, bah, ils n'entendent pas la voix de Dieu qui leur dit « L'Éternel est avec toi ». Non, ils vont chercher. Et c'est là qu'arrive Yul Brynner avec, vous savez, son crâne rasé, Charles Bronson, etc. Enfin voilà, bon, bref. Vous regarderez le film, et puis voilà, c'est tout. Mais ils étaient obligés de se cacher, et il n'y a personne qui est venu leur dire « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Et puis en plus, le sentiment qu'ils avaient que c'était quelque part une punition de Dieu, et ça c'est quelque chose qui est compliqué, et qui est compliqué pour nous les chrétiens aussi. C'est que, voilà, il y a plein de choses qui peuvent se mélanger dans notre tête, et du coup on peut analyser les événements du monde ou les événements de notre vie comme étant en permanence un jugement, hein, comme Élisée l'a mentionné tout à l'heure, un jugement de Dieu sur quelque chose. Et c'est un peu ce que dit le début du chapitre 6. Hein. L'Éternel les livra entre les mains de Madian. Voilà, on a l'impression que c'est Dieu qui nous envoie ces choses difficiles. C'est Dieu qui nous envoie des épreuves, qui nous envoie des moments difficiles. Et c'est dans cette période tellement noire ou tellement compliquée que Dieu dit « Va avec cette force que tu as ». Et non seulement il dit « va », il donne l'ordre à Gédéon de se mettre debout, mais il lui dit « sois sans crainte » et il lui dit « je serai avec toi ». Et je crois que c'est ça l'ensemble de cette histoire de Gédéon et cette espèce d'alliance en quelque sorte que Dieu passe avec Gédéon. Il ne nie pas le fait que la situation est difficile, il ne nie pas le fait qu'on vit dans un monde qui est compliqué, qui nous perturbe, qui nous angoisse parfois, mais ce que Dieu nous dit c'est « vas-y, va ». Et je serai avec toi. Et pense que la Bible fourmille d'exemples, et nos propres vies aussi d'ailleurs, d'exemples de personnages qui se trouvent confrontés à quelque chose de très difficile, de très dur, et qui passent au travers parce qu'ils disent « L'Éternel était avec moi, Dieu m'a parlé, Dieu m'a donné un texte biblique, Dieu m'a donné une pensée, m'a fait rencontrer quelqu'un qui m'a fait passer le moment difficile. » Ce que Dieu a dit à Gédéon, c'est il y a deux éléments, hein, vous avez remarqué, c'est « Je serai avec toi, n'aie pas peur, redresse ta tête, tu n'as pas à être vaincu par l'angoisse, la peur, etc. » Non, et va, ne t'enferme pas dans la peur, dans les difficultés, mets-toi debout, mets-toi en marche, et va accomplir la tâche pour laquelle tu es fait. Une double parole qui nous interpelle, le Seigneur s'engage à nos côtés, et il nous demande de faire notre part. Ou on peut le mettre dans l'autre sens. Dieu nous dit, vas-y, marche, mets-toi debout, et je serai avec toi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est, on n'a pas à attendre que Dieu nous montre par une révélation extraordinaire qu'il est le présent, puisque la Bible nous le dit, c'est une promesse. Dieu est là, et nous devons marcher, nous sommes appelés à remplir notre rôle d'être humains sur la terre. Je cite quelques versets dans les Proverbes, je crois qu'ils ont été cités dans une prédication il n'y a pas très longtemps, vous savez, où le paresseux dit « Oula, je ne peux pas sortir de chez moi, c'est sûr qu'il y a un lion au coin de la rue ». Il y a deux versets, c'est Proverbe 22-13 et pratiquement le même, Proverbe 26-13 également, pour ceux qui veulent noter. C'est voilà, le paresseux dit, donc c'est celui qui préfère se cacher qu'agir en quelque sorte, et il trouve des excuses. Et l'excuse c'est « il y a du danger ». Oui, c'est vrai qu'il y a du danger, c'est vrai que la vie que nous menons, elle n'est pas plus facile, ni plus simple, ni que celle de n'importe lequel de nos concitoyens en ce moment sur la terre. Et ce danger, il est aussi dans notre vie intérieure, et c'est ce que rappelle l'apôtre Pierre, hein, quand il dit « soyez sobres, veillez ». Le diable, tel un lion rugissant, et on retrouve l'image du lion, cherche qui il pourra dérober. Donc toutes ces choses-là, il faut aussi qu'on en soit conscient. Il faut en être conscient, il faut savoir que notre foi peut être mise à l'épreuve, mais la meilleure façon d'avancer, c'est de s'accrocher aux mêmes paroles que celles que Gédéon a entendues. Ça n'a pas été facile pour lui non plus, Gédéon. D'abord, vous avez entendu, hein, non pas moi, je suis le plus petit, je ne sais rien faire, donnez-moi un balai, pas trop lourd, comme dans Astérix, vous savez, donnez-moi un balai pas trop lourd, je vais balayer dans les coins, là, c'est quand même des, moi j'ai des références beaucoup moins littéraires qu'Élisée, quand même. La prochaine fois, je citerai des auteurs plus nobles. Mais il a eu des tas d'hésitations, il n'était pas qualifié pour cela, a priori. Il n'était pas un guerrier, la preuve, il était en train de battre son blé sur l'air, donc c'était plutôt un agriculteur. Et puis en plus, il faisait partie d'une toute petite lignée dans à une époque où le positionnement social avait encore plus d'importance qu'il ne peut en avoir aujourd'hui. Et puis après, même après cela, vous savez, j'ai arrêté au verset 16 la lecture, mais vous lirez la suite de l'histoire. Donc il commence par dire, bon, si c'est vraiment, si j'ai pas juste eu une illumination, il dit à l'ange, enfin à l'ange de l'Éternel, reste là un petit moment et puis il va lui préparer à manger, il revient, hein, l'ange est toujours là, donc c'était pas tout à fait une illusion, j'ai pas complètement rêvé. Et puis là, premier miracle, l'ange carbonise son repas d'un seul coup pour lui montrer la puissance de Dieu, celle qu'il est prêt à mettre à l'œuvre avec Gédéon. Et puis après, il y a la fameuse histoire que certains connaissent, vous savez, la toison ou la serpillière. Alors là, bon, voilà. Certains peuvent douter de la véracité de l'histoire, mais peu importe. Ce qui est important, c'est de voir les hésitations qu'avait Gédéon. Et donc, il va demander à l'ange de l'Éternel, il va lui proposer un défi, un truc impossible, quoi. Il lui dit, bon, je mets une toison par terre, là, il n'y aura pas de rosée du tout, mais la toison, il faut qu'elle soit toute mouillée. Et donc, le matin, il se lève, la toison, elle est trempée, donc il la tord dans son seau, etc. Puis il n'est pas tout à fait convaincu encore, donc il demande l'inverse, le coup d'après, il dit, bon, cette fois je veux qu'il y ait de la rosée partout, mais que la toison elle soit sèche, et la toison, voilà. Vous voyez, juste pour dire que c'est pas anormal d'avoir des hésitations, c'est pas anormal d'être un peu perturbé par ce qui nous arrive, c'est pas anormal d'avoir des doutes et des questionnements et des choses comme ça, tout le monde en a, et là aussi, les exemples dans la Bible, voilà, sans aller jusqu'à Thomas, mais si vous voyez, Moïse, enfin, tous ceux dont on a parlé tout à l'heure, hein, Moïse, quand Dieu l'appelle, il l'a lui aussi, il dit « Moi, je ne sais pas parler, en plus, je bégaye, je ne vais pas savoir y arriver. » Enfin, tout le monde a ses hésitations. Thomas, le disciple du Seigneur, qui dit « Attends, je ne peux pas croire comme ça, moi, j'ai besoin de choses un peu plus tangibles, parce que ça ne me suffit pas. » Au bout d'un chemin qui peut parfois passer par des moments de doute, et ça peut des fois être long. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre, et si c'est long, ce n'est pas que c'est plus grave. C'est juste que notre chemin n'est pas celui de quelqu'un d'autre. C'est simplement qu'on a besoin de cheminer pour arriver à saisir la main que Dieu nous tend. Et alors, on entend ses paroles. Va avec la force que tu as, va pas avec un truc qui ne t'appartient pas. Va comme tu es, mais je serai avec toi. Si tu vas, je serai avec toi. Si tu crois que je suis avec toi, tu vas pouvoir aller. Vous voyez, je pense que c'est important d'entendre ces deux phrases dans les deux sens et de se dire que dans tous les cas, Dieu veut être avec nous. Alors, comment faire ? Ben, il y a plusieurs chemins, évidemment. Hein. Chacun a sa façon d'agir et je crois que c'est à chacun de réfléchir dans le concret de nos existences. La prière, bien sûr, est une aide, mais aussi le déroulement de la vie, les rencontres que nous faisons pour comprendre là où Dieu veut nous trouver. Vous savez, il y a des choses, des fois, qui se passent. Je discutais il n'y a pas très longtemps au téléphone avec une amie qui passe par un moment très difficile. On avait très bonne relation professionnelle, elle est présidente d'une association dont je suis, etc. Bon, bref. On n'avait jamais parlé d'autre chose que de ce qui fait qu'on a des réunions ensemble, quoi, qu'on se connaît. Et puis, elle fait état de ses problèmes, difficultés familiales, problèmes professionnels, etc. etc. Et puis, après, elle me dit, je crois que j'ai fait ce que je pouvais. Maintenant, il faut que je fasse confiance. Et j'ai simplement pu lui dire que je porterai ces situations dans mes prières. Et elle m'a dit aussi que c'était aussi la façon dont ce qu'elle voulait dire quand elle dit faire confiance. On n'avait jamais parlé de ça avant, on n'avait jamais échangé sur notre foi chrétienne. Et puis voilà, la rencontre se fait, le chemin se fait. Et le chemin, il est à nous de choisir le bon chemin. Et c'est là que notre rôle et notre décision fait que parfois on se trompe et parfois on marche du mauvais côté. Il y a un texte très ancien dans la Bible, dans le Deutéronome, vous savez, c'est aussi un moment où le peuple d'Israël allait entrer dans une nouvelle période, comme nous aujourd'hui. Hein. Nous, on commence une nouvelle année, donc on rentre dans une nouvelle période. Alors, on a un peu l'habitude de saucissonner la vie entre l'année scolaire, l'année civile, etc. Donc là, c'est le culte de rentrée, c'est-à-dire qu'on rentre dans une nouvelle ère, une nouvelle période. Et le peuple d'Israël, Moïse leur parle, tel que c'est raconté dans Deutéronome, ils sont aussi à la veille d'une nouvelle période, puisqu'ils vont rentrer dans la terre promise. Et cette terre promise, elle est à la fois belle, magnifique, le pays où coule le lait et le miel, etc. Celui où ils ont la grappe d'Escol, vous savez, cette grappe de raisin, il a fallu deux hommes pour la porter, tellement la grappe de raisin était énorme, etc. Donc ce pays magnifique, cet avenir magnifique qu'on a peut-être devant nous. Et puis en même temps, c'est ce pays dans lequel il y a des géants, qui fait que vous vous souvenez, dans l'histoire d'Israël, il y avait une première tentative pour rentrer dans le pays, et puis les gens ont eu peur, et ils ont reculé, et du coup, ils ont dû errer 40 ans dans le désert. Donc il y a aussi ces deux choses-là. Et dans ce chapitre 30 de Deutéronome, Dieu dit, voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses prescriptions, ses ordonnances, afin que tu vives. C'est répété quelques versets plus loin. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, etc. Et ces paroles sont pour nous également. Et nous sommes comme le peuple d'Israël, nous sommes, et on est toujours... Commencer la formule, c'est la veille du dernier jour c'est le premier jour de la fin de ma vie, ou je ne sais plus quoi, c'est le premier jour du reste de ma vie, j'arrive jamais à la mettre. Voilà. Donc on est tous au premier jour du reste de notre vie, et quel que soit notre âge, ça marche toujours la formule, hein. On n'a pas besoin d'avoir mon âge canonique. Donc, et on est toujours à la veille de quelque chose, il y a toujours, voilà, l'avenir, on ne le connaît pas. L'avenir, il va se dévoiler au fur et à mesure qu'on met un pied devant l'autre et puis qu'on avance et qu'on remplit les tâches qui nous sont confiées et qu'on va avancer. Et donc, on peut avoir cette impression, c'est qu'il y a sûrement un lion au coin de la rue ou qu'il y a des géants dans le pays et qu'on ne peut pas y aller. Ou bien alors, on peut avancer avec la force que Dieu nous donne et en sachant que non seulement cette force, elle est là, mais que lui, il va la magnifier parce qu'il va être avec nous. Et c'est donc ce que nous dit aussi ce texte-là. On a des choix à faire, et notre vie est faite de choix en permanence. Est-ce qu'on venait ici ce matin, ou est-ce qu'on restait au lit, ou est-ce qu'on allait faire du tennis, hein, voilà, je sais pas, je suppose qu'il y a des gens qui jouent au tennis ce dimanche matin, ou est-ce que, enfin voilà, tout un tas d'autres choix. On a des choix à faire tout le temps. On les fait bien, on les fait mal, on en fait dont on se, voilà, on se mord les doigts après, puis il y en a, on en fait, et puis on est plutôt satisfait parce que ça avance. Et je pense que ce que nous dit ce texte, c'est de faire en permanence des choix qui offrent le plus de vie pour Dieu, le plus de vie pour l'autre, le plus de vie pour moi, pour mon prochain. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, toi et tous ceux avec qui tu es là, que nos paroles, que nos vies, le contenu de notre existence soit porteur de vie et non pas porteur de mort. Et ça peut être même simplement par les paroles que nous disons. Rappelons-nous ce que Jésus disait, hein, que si quelqu'un dit à son frère « raca », ça veut dire une injure qui veut dire « idiot », quoi, « débile » ou je sais pas, un truc comme ça, c'est comme s'il le tuait, quoi. C'est la même chose, Jésus dit, c'est la même chose. Donc soyons conscients que ce n'est pas seulement les gens qui prennent une Kalachnikov et qui vont, on en parle beaucoup, faire des attentats, hein, puisqu'on parle de ces procès aujourd'hui, c'est aussi des fois nos attitudes, les paroles que l'on dit, la façon dont on considère l'autre, le mépris qu'on peut avoir pour certains, parce qu'ils ne sont pas comme nous, ils sont moins beaux, ils sont moins riches, ils sont moins grands, ils sont moins je ne sais pas quoi. Ou l'inverse, hein, ils sont moins pauvres, ils sont moins dévoués, ils sont moins respectueux de je ne sais pas quoi. Et ça, c'est... Voilà, choisis la vie afin que tu vives. Et donc, voilà, nous sommes appelés à nous engager dans la vie, à produire des fruits. Jésus dit, produisez des fruits dignes de la repentance. Et donc, notre vie doit bien sûr avoir une certaine cohérence. Et ce que nous disons le dimanche matin, bah, il faut qu'on le retrouve aussi le lundi matin quand nous arrivons au boulot. Ah oui, ça c'est... Sinon, très rapidement, notre témoignage, notre engagement, nos paroles n'auront plus aucun sens. Ça va se dégonfler très vite et on sera en mauvaise posture. Depuis quelques temps, j'ai remarqué quand nous prions pour les enfants, Huguette utilise une expression, elle n'aime pas que je parle d'elle, mais bon, enfin, elle me pardonnera. Je fais le choix quand même. C'est bon. Elle dit, Seigneur, trouve-les où tu les attends. Et je trouve que, voilà, ça dit un peu des choses. On remet au Seigneur nos enfants, enfin nos enfants, ceux qu'on aime, ceux qu'on a envie, pour lesquels on a envie de prier. La chose peut, on peut élargir ça, bien sûr. Et trouve-les où tu les attends quelque part, Seigneur, que leur chemin puisse les conduire là où il faut qu'ils soient. Et c'est ça notre prière. Et c'est comme ça qu'on peut s'engager aussi pour les gens, par la prière. Un exemple qu'on a dans l'Évangile et qu'on connaît bien, vous savez, le jeune homme riche, il était très près, très près, il était presque arrivé là où le Seigneur l'attendait. Hein. Quand on lui dit, hein, c'est, bon maître, le Seigneur lui dit, mais pourquoi tu m'appelles bon ? Observe les commandements, si ça fait, voilà, fais ton travail de bon petit chrétien, si j'ose dire. Oui, mais j'ai fait tout ça, je vais au culte tous les dimanches, je prends la Sainte Cène chaque fois que je peux, enfin, etc. Voilà, j'ai fait tout ça, c'est bien. Et Jésus dit, il y a une seule chose qui te manque, c'est que tu es encombré par ta richesse, tu es encombré par ta position sociale, tu es encombré par ce que tu es et que tu ne veux pas lâcher. Alors, débarrasse-toi de tout ça et suis-moi. Et là, le jeune homme n'y est pas allé. Et j'y ai repensé en écoutant Jean-Haut prêcher il n'y a pas très longtemps sur Bartimée. Et une des choses, c'est que Bartimée, il jette son manteau pour courir vers Jésus, pour ceux qui étaient là. Hein, Bartimée l'aveugle et qui est au bord du chemin. Et quand Jésus l'appelle, il jette son manteau qui était toute sa richesse. Hein, c'était un mendiant, il avait ça. Ça lui servait de couverture, ça lui servait, c'était sa seule richesse. Mais il jette ça et il court vers Jésus. Le jeune homme, lui, il n'a pas jeté son manteau. Il n'a pas jeté sa richesse. Il l'a gardé et du coup, il est parti tout triste parce qu'il avait de grands biens, nous dit le texte. Et donc, ça veut dire que dans l'année qui vient, ben, on aura sûrement besoin de temps en temps de recalibrer nos projets, de peut-être jeter un manteau qui nous embarrasse. Alors, ça peut être l'argent, notre carrière, nos certitudes ou au contraire nos doutes. La religion ou le manque de religion, je ne sais pas, tout ce que l'on veut, qui nous entrave, et Dieu va nous aider à recalibrer nos projets, à recalibrer notre vie. Et on revient à Gédéon, la situation était grave, Madian, etc., et tout d'un coup, le blanc investi de général en chef, bon, qu'est-ce que fait le général en chef ? Il rassemble une armée, donc Gédéon, bah, le rappel, 32 000 hommes se présentent. Voilà, de toutes les tribus alentour, etc., un succès pour celui qui prétendait être le plus petit dans la plus petite tribu, enfin, qui n'était pas connu, si j'ose dire, pas médiatique du tout. Et bien, Dieu va, en plusieurs étapes, recalibrer complètement son projet. Et vous savez avec combien d'hommes, finalement, Gédéon a battu Madian ? 300. Même pas 1%. 0,93%. Je suis un matheux, j'aime bien les chiffres. Voilà. Moins de 1% de ce que Gédéon pensait utile, voilà ce qu'il a fallu à Dieu. Tout le reste, il a fallu l'abandonner. D'abord, 32 000 hommes, il y en avait plein qui étaient venus juste parce qu'ils espéraient une bonne solde, ou etc. Enfin, ils ne savaient pas trop pourquoi ils étaient là. Et Dieu dit, demande tous ceux qui ne savent pas trop pourquoi ils sont là, qu'ils rentrent chez eux. Donc, il n'en est plus resté que 10 000. Et puis après, il y avait, vous savez, il y a un récit un peu étonnant où, sur la manière dont ils se comportent pour aller boire de l'eau au torrent. Dieu dit, voilà, Dieu aide Gédéon à petit recalibrer son projet jusqu'à ce qu'il finalement il ne reste que ce qui est utile, 1% pour Gédéon, 99% pour Dieu. Et notre vie, et la façon de mener notre vie, elle peut être aussi. Choisis la vie afin que tu vives. Alors aussi, dans l'année qui vient, il peut y avoir des périodes où ça ne sera pas l'action qui nous est nécessaire, mais au contraire, l'inaction. Ce n'est pas la paresse, c'est l'inaction. Jésus lui-même se retire souvent à l'écart. Il invite ses disciples à le faire. Venez vous reposer un peu à l'écart, dit-il à ses disciples, après qu'ils aient fait une tournée un petit peu de missionnaire, peut-être, ou quelque chose de ce genre. L'exemple de Marthe et Marie, évidemment, qui est toujours cité. Alors après, on en tire des tas de commentaires qui sont hors de mon propos, mais simplement, ce temps nécessaire, ce temps de l'inaction, ce temps où simplement on est prêt à laisser Dieu nous parler, à laisser Dieu entrer en nous, à laisser Dieu nous montrer des signes, nous révéler quelque chose. Ce n'est pas de la paresse, mais c'est être une activité active qui est pour choisir la vie et non pas la mort. Et donc, voilà un peu ce que je pense qui nous attend pour l'année qui vient, puisque c'est le culte de rentrée. Et la seule certitude sur laquelle tout cela doit se baser, ce n'est pas les informations qu'on a de droite et de gauche, ce n'est pas ce que nous vivons, ce que nous sommes, ce que nous sommes devenus ou ce que nous ne sommes pas devenus, ce n'est pas ça la seule certitude, c'est que Dieu lui-même nous appelle et c'est lui-même qui a pris tout en main. Et j'aime beaucoup les versets dans l'épître de Paul aux Colossiens, si j'arrive à tourner les pages de cette Bible. Il faudra m'acheter une nouvelle Bible, parce que celle-là, elle est un peu usée. Il a effacé l'acte rédigé contre nous. L'acte qui nous accusait parce que nous sommes mauvais, parce que nos décisions ne sont souvent pas les bonnes. Jésus, en mourant à la croix, il a effacé tout cela. Il l'a supprimé, il l'a cloué à la croix. Il a dépouillé les principautés, les pouvoirs et les a livrés en spectacle. Il a triomphé d'eux par la croix. Alors voilà ce que je voulais vous laisser au travers de l'histoire de l'alliance en quelque sorte qu'a fait Gédéon avec Dieu en répondant à un appel qu'il n'attendait pas du tout, qui au début l'a franchement dérangé. Et puis, voilà, après vous lirez toute la suite de l'histoire. Il y a eu des moments faciles, des moments plus compliqués dans la vie de Gédéon. Et je pense que ce que Dieu nous propose, c'est d'entendre, de nous tourner vers Dieu pour l'entendre nous dire « Va avec cette force que tu as et je serai avec toi ». Je vous invite à la prière. Seigneur, l'avenir ne nous est pas connu, et heureusement sans doute, mais la seule chose que nous savons, c'est que si nous tenons ta main, toi tu ne nous lâcheras pas. Si nous tenons ta main, tu marcheras avec nous et tu nous aideras à vivre les mois, les années devant nous d'une manière conforme à ton plan pour que la vie puisse être en nous et autour de nous. Nous te remettons chacune de nos pensées pour que tu puisses les orienter vers toi. Merci parce que au travers de ces moments que nous passons ensemble, tu ravives notre foi. Tu consoles peut-être, tu penses des plaies, parce que c'est toi-même qui peux parler au travers de tout ce qui se dit dans un moment de culte, mais que même en dehors de ça, nous puissions rester vraiment attachés à toi, et que à chaque fois que nous avons des choix à faire, nous puissions penser « Choisis la vie afin que tu vives ». Sois loué Seigneur. Amen.